Pour s'informer, de plus en plus d'internautes choisissent RadioCapi.net. Chaque mois, vous êtes plus d'un million à nous suivre sur www.radiocapi.net et votre avis nous intéresse. Chaque jour, une question d'actualité est à la une du site, plusieurs propositions. Exprimez votre opinion. Écoutez les résultats de cette consultation sur l'antenne chaque jour à 8h45 et après les infos de 16h30 sur radiocapi.net.
Refus des dénonciations, c'est le premier terme que nous abordons dans cette émission avec notre invité Guilhem Aléré, juriste indépendant. Vous savez, une personne peut refuser de dénoncer un acte pour lequel il a assisté à un événement, il était témoin, ou il a vu, mais il refuse de témoigner par crainte des représailles ou suite il a peur des menaces. Voilà, il peut s'agir par exemple d'un cas de viol, on a assisté, mais on ne veut pas dénoncer. Pourquoi ? Parce qu'on craint qu'après avoir dénoncé, le gars va revenir pour des représailles. Alors, que dit la loi en cas de refus des dénonciations ? Maître Guilhem Aléré, juriste indépendant, est notre invité aujourd'hui pour répondre à vos préoccupations. Maître, encore une fois, bonjour.
Bonjour, Jody.
Alors, comment la loi définit la dénonciation ?
Oui, en droit congolais, en droit universel, si on peut ainsi dire, la dénonciation est une déclaration écrite ou orale par laquelle une personne qui n'a pas été victime d'une infraction désire informer ou se décide d'informer les autorités de la commission de cet acte délictueux. C'est-à-dire la personne n'est pas elle-même victime de l'infraction, n'est pas elle-même lésée, mais a eu connaissance de la commission de cet acte et décide d'aller volontairement vers les autorités dénoncer. Accusé, si vous voulez, un fait qui est arrivé à un tiers et pas à la personne elle-même. Là, c'est la dénonciation qui est à distinguer de la plainte.
Oui.
La plainte, elle, émane directement de la victime. Donc ici, puisque c'est un tiers qui dénonce, c'est une autre personne qui va porter les faits à la connaissance des autorités. On dit qu'il y a dénonciation parce que la personne n'est pas la victime directe des faits qu'elle est en train de dénoncer.
Alors, quelles sont les raisons qui peuvent pousser une victime à refuser? Pardon, une personne a refusé de dénoncer. Bon, j'en ai parlé d'autres, peut-être la crainte des représailles, mais peut-être qu'il y en a d'autres.
Oui, tout à fait, je dis Daniel, il y a des raisons que l'on peut comprendre. Hein. Par exemple, la prudence, le fait de ne pas vouloir se mêler de problèmes qui ne vous concernent pas. Vous savez, il y en a qui se disent, écoute, moi si je me mêle de cette histoire-là, demain on va m'appeler comme témoin, etc. Ça va perturber mon travail, mon employeur n'a pas la compréhension nécessaire pour me laisser aller comme ça dans des affaires qui ne me concernent pas directement, alors on préfère ne rien dire, on se tait. Et ça c'est l'affaire des autres et on passe son chemin quoi.
Oui.
Il y a aussi la stigmatisation hein, des délateurs dans la société, hein, les gens qui accusent tout le temps, qui rapportent les faits, on les appelle même dans les milieux universitaires des mouchards.
Les mouchards, oui.
Voilà, alors on veut ne pas être mouchard, un délateur, hein, c'est ça le terme concret. Donc il y a quand même prix du public envers les délateurs.
Oui.
Et voilà pourquoi les gens essayent d'éviter de se mêler de ces affaires-là qui concernent autrui. Et enfin, personnellement, je peux évoquer l'ignorance du droit. Parce que avant de se décider à dénoncer un fait, il faut soi-même être conscient qu'il s'agit d'un fait infractionnel, qu'il s'agit d'un crime ou d'un délit. Parce que justement, la majorité de la population congolaise n'est pas instruite à la question qui concerne le droit ou aux questions de droit. Et donc, il y a très peu de capacité de qualification des faits. Donc, il faut être déjà à son niveau à mesure de qualifier sommairement les faits pour dire, tiens, ça, on est en face d'une infraction. Et ça, ce n'est pas une infraction. Alors, lorsqu'on n'est pas à mesure de bien qualifier le fait, on préfère s'abstenir. Parce qu'il y a des faits que l'on croit infractionnels, alors que tout simplement, ils choquent la morale, mais ce n'est pas une infraction. Par exemple, je ne sais pas moi... le fait d'engrosser, comme on l'a dit ici dans certaines émissions, une fille majeure hein, avec son consentement, ben engrosser, c'est pas bon par rapport à notre morale, mais ce n'est pas une infraction. Alors si vous allez dénoncer précipitamment un fait comme celui-là, eh bien vous serez pris au dépourvu quand l'officier de police judiciaire vous dira non, c'est entre deux majeurs qui ont décidé de le faire, bien que en dehors des normes sociales.
Oui.
Donc il y a un problème de qualification des faits, d'ignorance du droit qui fait que les gens finalement préfèrent ne pas trop se mêler de ces histoires à caractère juridique.
Bien, et la crainte des représailles, on l'a dit également ici.
C'est la raison majeure.
Ça, c'est la raison majeure. Mais il semble que généralement, les Congolais n'aiment pas, il semble que ce n'est pas dans la culture des Congolais de dénoncer.
Oui, malheureusement, Jody, vous avez vous-même tout à l'heure évoqué toutes ces raisons, notamment la crainte des représailles, parce que on les suit quotidiennement dans les médias. Hein. Il y en a qui se plaignent du fait qu'après avoir dénoncé, quelques jours après, ils voient le délinquant circuler dans le quartier parce qu'il a été très vite relaxé par les services chargés, n'est-ce pas, de réprimer les faits qu'il a commis. Oui. Et donc les gens préfèrent comme ça n'être pas confrontés à des bandits qui, du jour au lendemain, reviennent encore en liberté. Mmh. Et ces bandits ne se privent pas, justement, de menacer ces gens en disant, voyez, vous avez été dénoncé ce que j'ai fait, les résultats, ce que je suis devenu de nouveau libre, eh bien, prenez garde à vous, les jours où on se retrouve avec vous dans un lieu approprié pour cela, eh bien, vous sentirez de quel bois je m'échauffe. Alors, les gens, face à tout cela, donc l'impunité...
Oui, l'impunité, oui.
Oui, oui, ça décourage les gens
à dénoncer. Mais vous savez, on le voit même au marché, vous allez au grand marché, il y a un petit pickpocket qui vient, un voleur qui vient vous soutirer de l'argent, mais tout le monde, les gens voient, mais ils préfèrent se taire.
Mais oui, je dis, c'est ça le problème avec la passivité de la population, oui. C'est que finalement, il y a des crimes qui commencent à être commis devant la population. On est en train de vous subtiliser, par exemple, un porte-monnaie. Eh bien, le public assiste. Quand le délinquant a pris fuite, on vous dit, tiens, vous n'avez pas vu. Nous, on a assisté comment il s'approchait de vous, mais on n'a pas osé.
On n'a pas osé dire.
Et donc, quotidiennement, on voit des scènes comme ça où les gens se font piller, agresser, etc. Et les gens passent dans l'indifférence la plus totale, juste pour ne pas se mêler de ce qui ne les concerne pas, ou par peur des représailles, comme vous avez dit tout à l'heure, Johnny.
Oui, Johnny. Alors, qu'est-ce dit la loi pour quelqu'un qui refuse de dénoncer un méfait?
C'est là que la chose est très compliquée, je dis, parce que il y a des nuances à faire. Hein.
Oui.
D'une manière générale, nous comprenons que le fait de dénoncer une infraction, un fait infractionnel, c'est rendre service à la société. Donc il y a comme un devoir général civique qui pèse sur tout individu de pouvoir porter à la connaissance des autorités un fait infractionnel dont il a pris connaissance. Mais j'ai personnellement fouillé la loi. Vous ne voyez pas une obligation assortie d'une sanction, c'est-à-dire si vous n'avez pas dénoncé un fait infractionnel auquel vous avez assisté, eh bien vous-même vous êtes passible de sanctions. La loi ne va pas jusque-là. Il y a des législations qui ont essayé d'aller jusque-là, comme en France par exemple.
Oui.
Où certains faits d'abstention, n'est-ce pas, de dénoncer, sont eux-mêmes réprimés comme étant des infractions. Le fait de ne pas dénoncer. Mais alors, c'est dans des cas vraiment très, très définis.
C'est pour quel genre d'effet?
Les maltraitances envers les mineurs, par exemple.
Oui.
Lorsque le mineur est en train de subir des maltraitances, des violences sexuelles, etc. Les personnes vulnérables, comme les malades, les infirmes, etc., lorsqu'elles sont agressées et que vous vous taisez, vous n'allez pas dénoncer ces faits-là. Eh bien, sous d'autres cieux, la législation pénale sanctionne ce genre de comportement. Même le fait de menacer ou d'intimider une victime pour qu'elle ne dénonce pas elle-même et ne se plaigne pas, c'est assimilé à tous ces faits-là. Ou alors un fonctionnaire public qui prend connaissance des faits infractionnels au cours de l'exercice de ses fonctions, mais qui s'abstient de dénoncer, il est aussi sanctionné dans le code pénal français. Alors ici, chez nous, on n'est pas encore allé jusque-là. On est un peu en amont, hein. Ça c'est lorsque vous êtes en train d'assister à une infraction qui est en train de se commettre et que vous ne dénoncez pas ou vous ne faites rien pour empêcher qu'elle continue à se dénoncer. Par exemple, on est en train de vous êtes voisin et votre voisin est en train de corriger entre guillemets par des sévices corporels sa femme. Eh bien, vous abstenez, n'est-ce pas, d'aller dénoncer. Exact. Bon, alors puisque vous êtes en amont de la commission de l'infraction, parce que quand nous parlons des dénonciations ici, en principe, nous sommes après, dans la phase après la commission de l'infraction. Mais lorsque l'infraction est en train de se commettre ou risque de se commettre, le fait de s'abstenir, de dénoncer ou d'intervenir peut paraître comme une... comment on appelle ça, non-assistance à personne en danger.
En danger, oui.
Ça peut apparaître aussi comme une sorte de complicité. Hein, si vous le faites un peu pour faciliter la chose à la personne qui est en train de commettre l'infraction, alors... on peut vous récupérer sous ces infractions-là pour vous sanctionner vous-même.
On voit même à Kinshasa des gens qui se battent. Les autres viennent, au lieu de les séparer, bon, ils les encouragent à
oui, oui, même un adulte qui dit Tika Bango Mutu, Mutu, Makasi l'équipe Bango. Donc là, on peut peut-être voir les choses sous l'angle de la non-assistance à personne en danger, qui est une infraction à part entière, ou alors la complicité à la réalisation d'une infraction. Mais après quelle infraction se soit commise et que vous, vous avez connaissance des faits, si vous vous abstenez de dénoncer, il n'y a aucune infraction qui vous sanctionne directement. Et voilà pourquoi donc je crois que la
les gens préfèrent alors ne pas dénoncer.
Tout à fait, je le dis, Daniel.
Refus des dénonciations que dit la loi. Nous avons trois auditeurs en ligne. Vous voulez également participer, composez les 081 890 63 94.
Tous les jours à partir de 9h, l'équipe d'Okapi Service se met entièrement à votre service. Santé, consommation, droits du citoyen, éducation, conseil au monde rural. Les spécialistes répondent en direct à vos questions. Avec ONG Partenaire, l'emploi, le conseil du jour et Service Plus, trouvez des pistes simples pour améliorer la vie de tous les jours. Okapi Service, l'émission libre service de la Radio de la Paix.
Refus des dénonciations que dit la loi. Benjamin, vous êtes à Bounia, Rachel à Issiro et Albert à Kananga. On commence avec Benjamin de Bounia. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Quelle est votre question? Benjamin, s'il vous plaît, on ne vous écoute pas très bien. Si vous avez votre radio allumée, veuillez l'éteindre et vous allez suivre à partir de votre téléphone. Après, vous allez rallumer après avoir posé votre question.
Je crois maintenant, je suis bien.
D'accord, allez-y maintenant.
Oui, alors je voulais juste avoir une question par rapport à ce sujet du jour. Alors, je pense que une fois que j'ai assisté, par exemple, à un cas de crime, par exemple, et que je n'ai pas été auteur, ni co-auteur, mais j'ai vu ça de loin, et que je parviens à aider la justice à retrouver les criminels après qu'ils soient donc partis, je crois, à une destination inconnue. Et puis, si, par exemple, le criminel est appréhendé, qu'il est saisi au niveau de la justice, et après ça, il me promet, par exemple, un acte de représailles. Et après, je suis victime de cet acte-là facilement. Et supposons que peut-être il y a un cas de mort qui survient. Est-ce que ma famille sera prise en charge par la justice, puisque j'ai aidé quand même la justice à retrouver la personne, à faire son travail? Alors, est-ce que ma famille, mes enfants, mes frères, mes soeurs, est-ce qu'ils seront pris en charge, ceux-là qui étaient sous ma tutelle? C'est ma préoccupation.
Merci, Benjamin. Rachel, depuis ici, bonjour.
Allô, Rachel.
On vous écoute.
Oui, j'ai un petit témoignage là et donc j'ai une question que je vais poser sur ça. J'ai connu une fille là qui était violée par son voisin. Et maintenant, le voisin question, il avait des moyens, il avait beaucoup d'argent et il se sont entendus avec les parents pour arranger à l'amiable, mais ils n'ont pas voulu décider. Maintenant, la fille, elle se dit, elle n'a pas voulu, elle n'était pas contente de ça. Maintenant, ma question est de savoir si la fille est parvenue à aller porter plainte, à d'aller se plaindre. La femme était et les parents et le monsieur, comment?
Bien, merci. Albert, vous êtes à Kananga, bonjour.
Bonjour, monsieur Yodi, et bonjour à notre invité.
On vous écoute?
Merci beaucoup. J'ai des questions à poser à notre invité. La première, c'est de savoir est-ce qu'il y a une loi qui est prévue pour protéger celui qui veut dénoncer un problème quelconque? Ou bien comment protéger le monsieur qui veut dénoncer vraiment un problème pour que sa vie ne soit pas exposée vraiment au danger.
Bien.
La deuxième,
oui.
Comment on peut s'assurer que les dénonciations dénoncées par un monsieur quelconque sont vraies ou exactes? Par exemple, celui qui prétend à dénoncer est tellement complice pour la partie adverse. Est-ce qu'il y a une loi qui prévoit pour ce cas précisé ou comment?
Merci Albert. Guillaume Allais, vous avez suivi toutes ces questions. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces auditeurs?
Des auditeurs très attentifs. Je commence par l'auditeur Benjamin de Bounia.
Oui.
Lui, il assiste, je crois, à un crime et dénonce. Et puis
il aide la police à retrouver le criminel.
Et puis le criminel promet des représailles et les réalise. Et Les tue même.
Et il les tue même. Alors, maintenant, sa famille.
Et la famille, qu'est-ce qu'on a fait? Vous savez, ces genres de questions sont des questions très délicates, je vous dis, parce que si on dit ici qu'on ne va rien donner à la famille, si on répond de manière péremptoire comme ça, eh bien, il va dire alors, dans ce cas-là, effectivement, autant ne pas se mêler de ces choses. Vous voyez? Oui. Parce que finalement, en fin de compte, je ne gagne rien. En réalité, effectivement, lorsque quelqu'un a aidé la justice comme ça, bien, sous d'autres cieux, malheureusement, je suis obligé de dire ça, même avec certains mécanismes, comme ceux de la Cour pénale internationale, les témoins, n'est-ce pas, qui peuvent aider la justice à avancer, à confirmer les charges qui sont mises sur les suspects, eh bien, les témoins sont encadrés, sont aidés, etc.
Sont protégés.
Alors, dans le cas d'espèce, dans notre législation, ces mécanismes ne sont pas encore mis en place. Je crois qu'avec la loi de mise en œuvre du statut de la Cour pénale internationale, on songera à tous ces petits détails-là. Mais dans l'état actuel de notre législation, et avec les moyens dont disposent non seulement les services de sécurité, mais aussi notre justice. Et malheureusement, lorsque quelque chose arrive à la personne qui a dénoncé, on a une pensée pieuse à son égard.
Et on s'arrête là. Hein,
malheureusement.
Et la famille...
Malheureusement, et ceci encourage justement le fait que les gens se taisent et ne dénoncent pas.
Et Rachel qui dit, une fille a été violée par le voisin. Comme il a beaucoup d'argent, il a soudoyé les parents qui ont préféré taire l'affaire, mais la fille n'a pas du tout aimé et apprécié. Alors si elle dénonçait, est-ce que les parents seront également arrêtés?
D'abord oui, parce que d'abord pour l'auteur, là c'est clair, comme c'est le viol, c'est une infraction grave, tout de suite la personne va être appréhendée, l'infraction va être traitée comme une infraction flagrante parce que c'est le viol, et c'est très clair chez nous. Alors par rapport aux parents, on ne peut pas dire que ce sont des complices parce que ils n'ont pas participé, n'ont pas facilité l'opération de viol. Oui. Ils ont tout simplement procédé à un arrangement amiable qui est interdit, n'est-ce pas, en matière de viol. De là à dire qu'ils ont été complices des actes, de l'acte qui est arrivé à leur fille, non, il n'est pas, parce que en droit pénal, il faut interpréter les faits de manière très stricte. Ils n'ont pas été complices, ils n'ont pas été co-auteurs, ils n'ont pas accordé des facilitations aux violeurs, mais ils ont voulu effacer l'opprobre, selon eux, qui risque de peser sur la famille si les faits sont connus du public. C'est un comportement qui n'est pas bon, socialement condamnable, moralement condamnable, mais il n'y a pas une infraction qui est liée à ce fait-là. Donc les parents ne seront pas... Ils vont peut-être être réprimandés pour leur comportement, mais eux-mêmes, en soi, n'ont commis aucune infraction qui mérite qu'on les inquiète ou qu'on les mette en prison.
Oui. Et Albert qui dit, existe-t-il une loi qui protège celui qui veut dénoncer dans notre pays?
Oui, d'abord, en amont, l'ordonnance loi de 78, il y a une ordonnance loi du 3 juillet 1978 qui est relative à l'exercice des attributions des OPJ. Eh bien, son article, je crois, 38, si je ne me trompe pas, cette loi permet ou oblige l'officier de police judiciaire ou l'officier enquêteur à protéger la personne qui dénonce les frais infractionnels, c'est-à-dire à lui assurer d'abord l'anonymat, et de sorte que l'on ne puisse pas connaître son identité. Mais cette loi ajoute, cette disposition légale dit qu'il faut que les dénonciateurs le demandent expressément. Donc en allant dénoncer, vous pouvez dire à l'officier de police judiciaire enquêteur que je ne souhaite pas que mon identité soit connue. En ce moment-là, il a l'obligation, il est lié par le secret professionnel, de ne pas dénoncer votre identité et donc de vous protéger. Mais la protection matérielle qui fait que sous d'autres cieux, on accorde une garde rapprochée à une telle personne qui dénonce les faits, qui a assisté à la commission des crimes, n'est pas encore organisée ici chez nous parce que c'est une question de budget à allouer aux services judiciaires. C'est une question d'organisation à laquelle ne sont pas encore parvenus, mais les réformes sont en cours et il faut que nous allions là-bas si nous voulons avoir une justice pénale efficace, bien entendu.
Et la dernière question d'Albert, comment vérifier la véracité des propos tenus par une personne qui vient dénoncer?
Ben, ça c'est très compliqué. Voilà pourquoi la loi, anticipant, ou le législateur a anticipé sur le fait qu'on peut aussi aller dénoncer de manière mensongère, juste pour faire du tort à quelqu'un. La loi, pour décourager de tels comportements, eh bien, a prévu la dénonciation calomnieuse comme infraction. Oui. Et c'est une infraction qui est punissable jusqu'à une peine de 5 ans de prison. Alors, il appartient maintenant, pour savoir qu'on a menti, eh bien, il appartient à l'officier de police judiciaire qui instruit, au magistrat instructeur, de vérifier les faits. Il ne va pas tout gober, il va d'abord vérifier. Et s'il s'avère que vous avez dénoncé de manière calomnieuse et avec mauvaise intention, eh bien, vous-même, vous pouvez être pris et, n'est-ce pas, amené à subir la prison pour un maximum de 5 ans.
Mais on retient que le fait de refuser de dénoncer un fait, donc la loi ne punit pas, il n'y a aucune disposition légale qui punit cela.
Oui, je dis, puisque vous voulez qu'on résume comme ça, hein, d'une façon ramassée, c'est une obligation plus civique, morale que pénale.
Patient Paul nous appelle de Kinshasa. Vous voulez également participer à cette émission? Appelez-nous au 081-890-63-94. Nous parlons du refus des dénonciations. Qu'est dit la loi congolaise à ces sujets?
Votre radio vous propose chaque après-midi 2 heures de découverte. De 13h à 15h, partez à la découverte des recettes et des femmes du Congo. Suivez nos reportages, vie quotidienne, paroles d'enfants et femmes d'aujourd'hui. Laissez-vous guider par les balades en zigzag. Un zeste de culture et beaucoup de musique. 13h, 15h, découverte, le cocktail de l'après-midi sur Radio Okapi.
Refus des dénonciations, que dit la loi? Patient Paul, bonjour.
Bonjour, je dis.
Quelle est votre préoccupation?
Ah oui, je dis bonjour aussi à l'invité.
Bonjour.
Ainsi qu'à tous les auditeurs de Radio Okapi. La question, qu'est-ce que prévoit la loi quant à ces inciviques, les contrefacteurs qui blanchissent donc l'argent, soit la monnaie étrangère ou même locale, partout ayant des couvertures au niveau de la hiérarchie? Lorsque on dénonce, au lieu que la justice soit rendue, eh bien, l'affaire tourne contre l'auteur de la dénonciation, jusqu'à tel point que et tu sois donc arrêté et mis en prison, alors que ces gens-là circulent librement donc dans la ville ici avec des jeeps, les moyens maintenant disponibles à leur besoin. Donc, que prévoit donc la loi quand on dénonce donc les gros poissons de ces genres de choses? Voilà, merci.
Bien. Ogi Bendelo de Kikwit, bonjour.
Bonjour, jeudi Daniel Kachama. Je salue notre invité qui est au plateau.
Bonjour.
Je n'oublie pas de saluer tous ceux qui sont présentement branchés et bon début de semaine à toutes et à tous.
Bon, Ogi, vous avez beaucoup de salutations là. Alors, passez directement à la question.
Merci, jeudi. J'ai un témoignage. Il y a des ans passés, la fille à mon voisin, les parents de la fille n'étaient pas présents. Et maintenant, il y a un petit qui vient témoigner aux parents que votre fille a été violée par un tel papa. Alors, lorsqu'on est en train d'élaborer ce processus-là, on voit que la chose était réelle parce que le petit qui avait vu, qui a presque 10 ans, il le témoignait vraiment très bien. Et maintenant, arrivé au parquet, les parents de l'enfant, du petit garçon, disent en tout cas, notre enfant ne peut pas se rendre au parquet pour ce problème. L'enfant commence à refuser catégoriquement, mais au début, il témoignait avec assurance vraiment et avec preuve. Bon, c'est pourquoi j'ai voulu poser la question à notre invité. Que prévoit la loi à ce sujet? Est-ce qu'il faut que ces petits-là soient aussi poursuivis? Ou bien qu'est-ce qu'on doit faire dans ces cas-là? Merci, Jody. C'était là ma seule question.
Bien, merci. Rodrigue Ikwa, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, Jody. Daniel Kastama. Bonjour à l'invité.
Bonjour. On vous écoute, Rodrigue.
J'ai deux petites préoccupations. La première, je voudrais savoir, au cas où un fait quelconque se passe devant les ministères publics et que lui-même, il est présent, il porte directement l'affaire à la justice. Maintenant, qui sera le dénonciateur? Et puis, comme la deuxième question, au cas où la dénonciation s'est faite et que le problème ou soit l'effet qui a porté la dénonciation n'est pas correct, en ce moment-là, qui sera la réaction du tribunal face au dénonciateur qui a dénoncé conformément au mensonge?
Voilà, maître a déjà répondu à cette question. Il a dit que vous allez couper, je crois, des 5 ans de prison si vous faites une dénonciation mensongère. Alors, pour les autres questions, merci d'avoir appelé, Rodrigue. Maître, on commence par la question des patients de Kinshasa.
Oui, patient Paul, je crois, et les contrefacteurs et les blanchiments d'argent.
D'argent qui ont des couvertures un peu partout, et dès que vous dénoncez l'affaire, ça se retourne contre vous et vous allez en prison.
Oui, oui, là, pour aller droit vers la réponse, la loi a prévu pour les fonctionnaires publics tels que les officiers de police judiciaire et autres magistrats enquêteurs, hein, une infraction qu'on appelle abstention coupable de fonctionnaire. Donc un fonctionnaire qui est saisi des faits, n'est-ce pas, ne peut pas s'abstenir de poser un acte qui rentre dans ses fonctions. La loi vous dit que vous, votre rôle, c'est de rechercher les auteurs des infractions, et de rassembler les preuves contre eux et de les faire sanctionner. Et vous, on vous amène un cas des contrefacteurs de monnaie, des blanchisseurs d'argent, et tout simplement parce qu'il y a corruption, n'est-ce pas, vous vous abstenez de faire. Eh bien, ces genres de fonctionnaires peuvent être poursuivis pour corruption et pour abstention coupable des fonctionnaires. La peine peut aller jusqu'à 2 ans et même au-delà. Mais le problème, c'est que dans la pratique, malheureusement, nous vivons une impunité généralisée.
Et c'est pour cela que les gens refusent de dénoncer.
Et puis, les gens ont tendance à croire que les OPJ et autres magistrats qui instruisent les dossiers sont invulnérables, sont intouchables.
Oui.
Hein, alors que, bon, il faut avoir le courage d'aller jusque-là. Mais si vous portez plainte contre leur hiérarchie, s'il s'agit d'un OPJ, vous allez vers le procureur de la République. S'il s'agit d'un magistrat, vous allez vers son chef, le procureur de la République, le procureur général. Vous allez voir que, eh bien, si lui s'abstenait parce qu'il a été corrompu, ses chefs vont engager une procédure disciplinaire contre lui. Et s'il constate qu'effectivement il y avait eu abstention coupable, il peut avoir des sanctions et disciplinaires et pénales. Le problème, c'est que non seulement il faut dénoncer les auteurs des infractions, mais aussi les autorités judiciaires qui instruisent les affaires et qui tentent, n'est-ce pas, de faire échapper à la sanction ces auteurs.
Bien, Ogil Kikwit nous parle d'un petit garçon de 10 ans qui a vu comment un papa était en train de violer une jeune fille, et puis il a témoigné après vérification. On a trouvé que c'était vrai. Et au moment d'amener l'enfant au tribunal, ses parents ont refusé et le petit aussi a changé d'avis, il ne veut plus aller.
Ça, c'est vraiment un casus pour universitaire. Hein. Et donc, brièvement, on comprend que les parents ont intimidé le dénonciateur des faits, mais les faits dénoncés étaient réels. Un, pour l'auteur de l'infraction, en tout cas, c'est clair qu'il doit être poursuivi parce que la justice va vérifier les faits et les témoignages de cet enfant-là, n'est-ce pas, doit être pris en compte. Mmh. Alors, maintenant, en ce qui concerne les parents qui ont intimidé l'enfant et qui désormais, n'est-ce pas, s'est rétracté, eh bien, encore une fois, il n'y a pas de sanction, sauf à considérer qu'ils sont en train d'entraver la manifestation de la vérité, entraver le bon déroulement de la justice.
Oui.
Mais ce sont des choses toujours difficiles à prouver, parce que là, on est en présence d'un enfant qui disait hier une chose, et le lendemain, il dit non. On risque de dire, bon, c'est un enfant, certainement qu'il a eu une illusion, etc.
Oui.
Et ça va être très difficile de prendre ses parents pour cette infraction-là, parce que les parents, l'enfant ne dira jamais, c'est papa qui m'a dit de changer d'avis, ou c'est maman. Il va instinctivement protéger ses parents.
Et on Mais comme il y a 10 ans, certains petits-enfants peuvent dire, papa avait dit que je ne parle pas.
Oui, alors à ce moment-là, il y a une obstruction, vraiment une entrave au déroulement de la justice, et la justice peut se saisir de tels parents. Mais si l'enfant n'amène pas un tel témoignage, ça va être difficile, parce qu'il est du droit d'un témoin de se rétracter, de dire non, j'avais mal appréhendé les faits, etc. C'est à la justice maintenant, par d'autres moyens d'investigation, d'établir la vérité. Mais vis-à-vis de ses parents-là, sauf si l'enfant dit, c'est papa qui m'a intimidé, c'est maman qui m'a intimidé, eh bien, il est très difficile de prouver qu'ils ont amené leur enfant à changer d'avis.
Et Rodrigue, on va terminer avec la question de Rodrigue qui dit, si le ministère public est chargé de rechercher les infractions, alors comment les autres citoyens vont aller dénoncer?
Exact, Jody Daniel, sa question rejoint une de vos émissions ici sur les tapages, je crois, nocturnes et autres, où on a dit une fois ici que même les officiers des ministères publics, c'est-à-dire les magistrats du parquet, se retrouvent dans les quartiers en face de tapages nocturnes, un deuil qui se tient sur l'avenue, une fête qui se tient toute la nuit sur l'avenue, c'est une infraction. Tapage nocturne, on empêche tout le monde de dormir, mais même eux, les magistrats qui habitent le quartier, n'osent pas se saisir des faits. En fait, et c'est ça l'expression que j'allais donner à notre auditeur Rodrigue, le fait pour un magistrat d'être témoin lui-même, de constater qu'il se commet une infraction et de se mêler à la chose, ça s'appelle la saisine d'office. Il se saisit d'office comme il a le pouvoir d'instruire, et c'est ce qui est recommandé justement. Nous avons plein d'officiers de police judiciaire, plein de magistrats qui habitent nos quartiers ici.
Oui, il y a du bruit.
Eh bien, bien, s'il se saisissait d'office de tous ces faits infractionnels, oui. Eh bien, ça peut aussi aider la population qui a peur de dénoncer, mm-hmm. parce que là, c'est le magistrat lui-même qui constate et qui se prend en charge les faits. Ce serait très bien. Mais malheureusement, cette saisine d'office est très peu exercée pour des raisons de stigmatisation. Vous imaginez les gens qui tiennent leur deuil. Vous, magistrat, vous allez vous commencer à arrêter la famille et prouver au motif oui. qu'elle a fait du tapage.
Mais on va vous prendre pour un sorcier.
Voilà, je dis de manière un peu oui. Cocasse l'affaire.
Bien, refus de dénonciation, que dit la loi? Eh bien, la loi n'a rien prévu, donc on ne peut pas vous arrêter si vous refusez de dénoncer. En fait,
sauf si vous avez assisté à la manière dont les choses se préparaient. Oui. Là, vous pouvez être récupéré comme complice. Mm-hmm. Ou si, lorsque la chose est en train de s'opérer et vous obtenez, vous vous abstenez, vous pouvez être comme un co-auteur ou facilitateur de l'infraction. Mais après que les faits se soient commis, je dis, c'est une obligation civique tout simplement. Soyez un bon citoyen, dénoncez.
Bien, Maître Guilhem Allaire est juriste indépendant. Merci.
Merci à vous, je dis merci à l'équipe technique de Okapi Service. Okapi.